Vous êtes sur RTL. RTL Matin.
Avec Yves Calvi.
Il est 7h44, très bonne journée à vous tous qui écoutez RTL. Alba Ventura, vous recevez donc ce matin le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Jean-Michel Blanquer.
Bonjour Alba Ventura.
Merci d'être sur RTL ce matin. Monsieur le ministre, vous avez pris en compte ce que disent tous les épidémiologistes, à savoir une progression de l'épidémie, sans compter les questions qui restent en suspens sur un éventuel reconfinement. Vous avez pris en compte aussi la difficulté à se préparer aux examens. Et c'est pour toutes ces raisons que vous avez finalement décidé d'annuler les épreuves de spécialité du bac du mois de mars ?
Oui, et surtout de les remplacer par un autre mode d'évaluation, en l'occurrence le contrôle continu du premier trimestre, du deuxième trimestre et du troisième trimestre, de façon à ce qu'on travaille jusqu'au bout.
Mais ça change tout quand même. Hein.
Ah, ça change
là,
les choses.
Des épreuves sur trois jours, 15, 16 et 17 mars.
Tout à fait.
Donc ça, c'est annulé.
Oui, même si un établissement pourra évidemment organiser ce jour-là, s'il en a envie, des épreuves qui compteront pour le contrôle continu.
Ah.
Donc ceux qui se préparent peuvent tout à fait continuer à le faire avec cette échéance-là. Mais ce qui comptera pour la note, c'est la moyenne de l'année, de façon à ne pas créer une contrainte uniforme sur l'ensemble du pays, puisque nous savons qu'aujourd'hui, les lycéens ne sont pas tout à fait dans la même situation, selon l'hybridation ou pas, en particulier de leur lycée.
C'est-à-dire qu'en fonction de... quand vous dites hybridation, c'est soit je suis en présentiel, comme on dit, soit en distanciel.
En présence ou à distance.
Voilà.
Et donc,
on en invente des mots.
Voilà.
Hein.
Et donc, dans ce cas-là, pour créer les meilleures conditions, disons les conditions les plus sereines possibles pour nos élèves, j'ai pris cette décision. Évidemment, comme d'autres décisions, on ne les prend pas de gaieté de cœur, puisque c'est pour faire face à des contraintes. Mais il me semblait que c'était plus juste. Après avoir beaucoup consulté l'ensemble des organisations, avoir écouté beaucoup de personnes sur le terrain, c'est la décision que j'ai prise, de façon à ce que, encore une fois, les buts que nous nous fixons soient atteints, c'est-à-dire la sérénité des élèves et leur réussite, puisque mon but fondamental, c'est de les faire réussir pour la suite, autrement dit qu'ils acquièrent le plus de connaissances, et ils le feront tout simplement en préparant les différents contrôles qui existent dans l'établissement jusqu'au mois de juin.
Mais c'était pas plus
simplement
simple de...
pour les enseignements de spécialité, parce que je maintiens bien sûr les épreuves finales de philosophie et le grand oral du mois de juin.
C'est ça, et c'était pas plus simple de tout reporter au mois de juin, comme ça on...
Non, parce que l'un des objectifs...
plus de visibilité, et c'est ce que vous demandez le SNES-FSU ?
Oui, d'autres organisations demandaient d'autres choses, donc nous avons pris une solution qui permet quand même d'atteindre plusieurs objectifs, et notamment, l'objectif, c'est encore une fois de travailler jusqu'au bout. Je ne veux pas que les élèves perdent des jours, et une des vertus de la réforme du baccalauréat est justement de reconquérir le mois de juin, d'éviter qu'il soit perlé. Vous savez, très souvent en France, les élèves même de seconde et de première travaillent très peu au mois de juin du fait du baccalauréat. Donc on n'aura pas ce phénomène, on aura du travail jusqu'au bout. Or, on en a besoin parce qu'avec tout ce qui s'est passé depuis un an, il est bon qu'il y ait des journées de travail gagnées.
Pour les élèves et pour les parents qui nous écoutent, ces notes, les notes de ces épreuves de spécialité, hein, deux notes, devaient figurer dans Parcoursup. Donc, que vont inscrire les élèves dans Parcoursup ?
Alors, ils inscriront ce qui se passait déjà l'année dernière, c'est-à-dire les moyennes qu'ils ont au moment où on s'inscrit dans Parcoursup. Donc, justement, à la fin du mois de mars, la situation de notes des élèves dans leurs deux enseignements de spécialité se rapporter dans Parcoursup.
Il est important, vous dites à chaque fois, de ne pas léser les élèves. Le sujet de philo du mois de juin, vous en proposez plus ?
Oui, on en rajoute un troisième, de façon à ce que les élèves aient plus de choix, tout simplement. C'est toujours cette conciliation entre l'adaptation plus souple et la bienveillance que nous voulons pour les élèves, parce qu'ils vivent une année particulière. Moi, c'est une génération comme celle de l'année dernière que je regarde avec beaucoup d'attention, parce que nous leur devons un avenir réussi, nous leur devons de l'optimisme aussi, de la projection positive dans le futur, et nous prenons des décisions qui sont faites pour ça. Évidemment, dans un contexte très contraint où il s'agit de faire face à des situations particulières, mais je pense que c'est la solution la plus juste que l'on pouvait avoir.
Jean-Michel Blanquer, pour l'oral de français en première, on se souvient que l'année dernière, il avait été annulé. Il y a des choses qui changent cette année ?
Oui,
les élèves de première.
Fondamentalement, l'oral d'abord aura lieu de manière normale, c'est la première chose à dire. Et puis ensuite, nous demandons aux élèves d'avoir préparé 14 textes, donc c'est un peu moins que ce qui était prévu. Et ça doit leur permettre là aussi d'arriver avec toute la sérénité nécessaire. Bien sûr, on a le droit d'en présenter plus que 14, mais 14 c'est le plancher.
Et ils seront en présentiel.
On est dans la voie technologique. Et ils seront, ça se passe en présence, oui, sauf si on était évidemment au moment de ces épreuves à la fin de l'année scolaire dans une situation épidémique rude, mais a priori, ce n'est pas ce que nous avons en tête.
Vous avez quand même proposé des stages de réussite pendant les vacances pour les élèves qui ont besoin de rattraper ?
Oui, c'est très important que nous aidions les élèves pendant les vacances. Nous l'avons fait pendant les vacances précédentes, hein, dans le cadre de ce qu'on appelait les vacances apprenantes et aussi d'autres dispositifs. Par exemple, aux vacances de printemps de l'année dernière, vous vous souvenez peut-être qu'on avait préparé les élèves pour un peu compenser les jours qu'ils avaient perdus pendant le confinement. Eh bien, on va le faire là au mois de février pour les élèves de terminale, de façon là aussi à les faire réussir dans leur contrôle continu.
Jean-Michel Blanquer, on parle de plus en plus d'un possible reconfinement. Alors la question n'est pas serons-nous reconfinés, mais quand le serons-nous ? Est-ce que vous envisagez d'allonger les vacances de février ?
Non, et d'abord, je ne suis pas d'accord évidemment avec les termes de votre question, parce que non, ce n'est pas certain qu'il y ait un reconfinement. Il y en aura peut-être un, s'il le fallait.
La question est quand même posée.
Elle est posée, bien sûr. Mais vous avez dit, on ne se demande pas quand, mais pas si, mais quand.
On écoutait Olivier Véran, c'est ce qu'on...
Nous verrons bien. En tout cas, nous savons qu'il faut faire face à une situation compliquée. Je tiens à dire que, et ça c'est une nouvelle que j'ai depuis hier soir, le calcul de notre taux de positivité en milieu scolaire n'a pas changé. Il est de 0,3% sur des milliers de tests que nous faisons, vous savez, aujourd'hui en milieu scolaire, notamment dans les lycées et les collèges, sur les adultes et les élèves. Donc pour l'instant, nous restons sur une sorte de plateau.
On ne se contamine pas trop en classe, c'est ce que vous voulez dire.
Alors oui, bien sûr, il peut y avoir de la contamination, mais elle reste limitée par rapport à la situation générale. Bien sûr, nous regardons ça au jour le jour.
Il y a des écoles fermées, des établissements fermés ?
Bien sûr, nous continuons à fermer... au jour le jour, des écoles, des collèges et des lycées en fonction de la situation. Là aussi, ça reste sur un plateau avec une trentaine d'écoles et d'établissements.
Il y a des clusters ?
Alors, ça dépend ce qu'on appelle le cluster, mais disons qu'on évite que ça devienne des clusters, justement. Il y a eu une ou deux fois où ça, justement, était trop long, ça a été trop attendu, mais sinon, c'est autour de trois cas à partir de trois cas qu'il y a fermeture la plupart du temps.
Et donc, est-ce que vous avez envisagé un scénario de confinement pendant les vacances de février ? Est-ce que vous avez déjà ça en tête ?
On a toujours tous les scénarios en tête, mais les vacances de février ont vocation à être à la date prévue, de durer 2 semaines pour chacune des zones et de ne pas être changée. Bien sûr, ce que je viens de vous dire peut encore évoluer en fonction de la situation, mais mon objectif sur ce point comme sur d'autres, c'est de tenir au maximum les calendriers, de façon à ne pas troubler les familles, de façon à ne pas troubler le pays, de façon à ne pas troubler les élèves, tout simplement. Et donc, on est toujours sur le principe de 2 semaines de vacances aux dates prévues.
Jean-Michel Blanquer, on le voit, vous avez du pain sur la planche et c'est pour ça que vous avez sans doute dit à Emmanuel Macron à propos des élections régionales de juin pour lesquelles vous êtes pressenti en Ile-de-France. Monsieur le Président, il y a des choses que je ne sens pas.
Alors ça, vous savez, la presse écrit des choses, c'est pas du tout une phrase que j'ai dite d'ailleurs, mais peut-être qu'on peut interpréter les choses ainsi, mais on lit dans la presse...
Vous le sentez, vous le sentez pas ?
Non, ce qui est certain, ce que vous observez vous-même, c'est que j'ai quand même beaucoup de travail, que ce soit pour la gestion de la crise ou même pour mener les différentes réformes. En ce moment-même, vous avez le Grenelle de l'éducation pour la transformation de la gestion des ressources humaines du ministère, pour mieux payer les professeurs et les personnels. C'est énormément de travail. Donc
c'est pas compatible avec une campagne des régionales.
Disons que je dirais ce que je ferai dans quelques jours, mais c'est vrai que ce qui m'intéresse, c'est le collectif dans cette affaire. Autrement dit, que la majorité présidentielle soit présente dans les élections, c'est pas forcément avec moi impliqué, parce que c'est vrai qu'on ne peut pas tout faire, il faut être raisonnable, mais je continue la réflexion avec tous mes camarades, de façon à regarder ce que l'on va faire.
Notamment le député Laurent Saint-Martin, c'est ça ?
Oui, lui qui est très investi dans la préparation du programme et qui est en plus une personne de très haute qualité. Donc nous regardons ça ensemble. Ce qui est certain, c'est que depuis des semaines, je ne suis que sur les sujets éducation nationale et que c'est difficile de faire autre chose.
Que ce ne sera pas vous. C'est difficile d'être ministre dans une nation de 66 millions de procureurs. Je reprends les propos du président hier qui disait regretter la traque incessante de l'erreur.
C'est aussi une nation de 66 millions d'entraîneurs de football, de 66 millions de ministres de l'éducation, et ça fait parfois notre charme. C'est notre pays, nous l'aimons, et le président le montre en permanence. Et donc il faut au contraire voir ça comme cette expression dans le contexte dans lequel elle a été utilisée, comme une forme d'amour de notre pays et d'envie aussi qu'on progresse par plus de cohésion et d'unité.
Mais vous avez l'impression que tous les Français font le procès d'Emmanuel Macron ?
Non, c'est d'ailleurs pas ce qu'il a voulu dire. Ce qu'il a voulu dire, c'est que quand on traverse une crise comme celle-ci, on doit tous faire preuve de cohésion, à la fois d'esprit, je dirais, critique démocratique, c'est ce qui se passe, ça nous n'en manquons pas, et en même temps une capacité de cohésion, d'unité nationale, c'est vrai d'ailleurs aussi dans notre vie quotidienne, dans tout ce que nous avons à faire de collectif, et donc c'est cet appel-là, et vous savez, la France peut être assez fière de beaucoup de choses qui se sont passées depuis un an, et c'est une fierté de collective de vis-à-vis de tous les Français. Je pense au système scolaire. Le système scolaire français fonctionne aujourd'hui beaucoup mieux que la plupart des systèmes comparables, tout simplement parce que nos professeurs, nos personnels, les familles, les élèves eux-mêmes jouent le jeu, ont des bons réflexes, et tout ceci, bah, c'est des éléments de fierté collective. Donc plutôt que de toujours critiquer notre pays ou nous critiquer nous-mêmes, eh bien, on peut parfois avoir des éléments de fierté collective, comme quand on gagne en sport, par exemple.
Eh bien, tiens, on en parle. Vous êtes le ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports. Et je sais que vous êtes un très grand fan de football. Le monde du foot est en ébullition en raison de l'attribution des droits télé, dont un appel d'offres a été lancé après le fiasco de Mediapro. Est-ce qu'il y a un risque d'écran noir ?
En tout cas, nous faisons tout pour que ce ne soit pas le cas, même si c'est quand même un sujet privé, d'acteurs privés qui ont pris trop de risques au début de cette affaire. Et maintenant, les choses doivent être rattrapées. Donc la puissance publique joue tout son rôle, c'est-à-dire d'être en arrière-plan pour que les choses se passent au mieux. Mais en même temps, il faut laisser les acteurs privés faire ce qu'ils ont à faire et veiller à ce qu'on ne se retrouve pas avec un écran noir. Surtout,
ah oui,
moi,
il y a un risque quand même.
Mon but, bien sûr, il y a toujours des risques sur tous les sujets, mais avec Roxana Maracinanou, nous veillons notamment au fait que les clubs ne soient pas lésés dans cette affaire, et que notamment les petits clubs et les moyens clubs ne se trouvent pas en faillite ou dans des situations impossibles du fait de la situation économique dans laquelle ils auraient été mis.
Merci beaucoup Jean-Michel Blanquer.
Merci à vous, merci et bonne journée.
Des matchs de foot que nous pourrons continuer à suivre. Néanmoins, sur RTL, le calcul du taux de positivité n'a pas changé. Il reste...
RTL Matin, les pépites d'Anthony Martin.
Tous les jours à 7h25 dans RTL Matin avec Yves Calvi, je vous propose une pépite musicale sortie de ma discothèque. Bowie chante Brel, Charles Aznavour s'essaye au disco, Clo-Clo à l'anglais. Chaque matin, une rareté, un pas de côté, parfois une nouveauté. On se retrouve chaque matin à 7h25 pour notre balade au cœur du patrimoine musical et bien sûr à tout moment en replay sur la nouvelle appli RTL.